Dans l'évangile de Luc, nous allons voir le témoignage d'un frère qui pourtant donne l'apparence d'être fidèle, très fidèle. Et regardons pourtant son comportement. Luc chapitre 15, on appelle cette parabole la parabole du fils prodigue. Mais on pourrait l'appeler aussi la parabole des deux rétrogrades. Croyez-moi, Luc chapitre 15, verset 25. Luc chapitre 15, verset 25. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avait des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ?»« Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. » Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. On va lire dans l'évangile dans l'épître aux Hébreux le témoignage d'un autre homme qui n'a pas du tout le même comportement. Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux chapitre 11, verset 5. Cet homme nous est listé dans la longue file de ces hommes qui ont marché par la foi. Donc Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et une troisième lecture, juste un peu avant, toujours dans ce même livre, au chapitre 4 et au verset 16. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Un verset qui va nous servir ce soir pour comprendre un peu mieux la volonté de Dieu. Hébreux, chapitre 4, verset 16e. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Nous le relisons, parce que je pense qu'il y a dans ces simples versets un grand enseignement. Vous le comprendrez mieux quand je l'expliquerai tout à l'heure. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. C'est un verset extraordinaire. Je ne sais pas si vous réalisez ce que nous venons de lire. Alors on peut comparer les deux hommes dont on vient de parler, le frère aîné dans la parabole du fils prodigue et Enoch. Alors on ne doit pas se comparer les uns aux autres. Ça c'est une chose qui est déconseillée. Jamais ne vous comparez à quelqu'un. Mais quand même, nous pouvons prendre la parole de Dieu et voir que certains, malgré le fait qu'ils étaient bien entourés, est-ce que le fils aîné dans la parabole était bien entouré? Il était avec qui? Avec son père. Le père dans cette parabole représente qui? Il représente Dieu. Donc, cela nous prouve que nous pouvons être très bien entourés et être dans un très bon, très mauvais état d'esprit. C'est important ça, ce n'est pas parce que vous êtes avec des chrétiens qui sont corrects, spirituels, que vous le deviendrez. Il est certain que si vous êtes à l'écoute, leur bon témoignage vous aidera. Mais si vous ne voulez pas, vous ne progresserez pas. Moi je trouve que Judas avait un très bon pasteur avec lui. Vous croyez oui ou non? Est-ce que Judas avait un bon pasteur avec lui? Voyez, ça ne l'a pas empêché de conserver dans son cœur un problème qu'il avait avant sa conversion, c'est-à-dire l'amour de l'argent, et ça l'a profondément perdu. Donc vous étudiez le témoignage d'un homme comme Enoch, et vous dites, cet homme, quand même, quel témoignage. C'est là, il est cité dans le livre des Hébreux, un homme qui a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous n'aimeriez pas qu'on dise de vous, et ce n'est pas une question de frimer, mais est-ce que vous n'avez pas envie que votre témoignage soit la gloire du Seigneur? Voilà, il a marché avec Dieu. Et c'est sûr que si nous marchons avec Dieu, il est fort probable que lorsque le Seigneur viendra, Jésus viendra nous chercher, eh bien nous serons nous aussi enlevés. C'est une image de ce qui arrivera à ceux qui seront prêts lorsque Jésus viendra. Et pour Enoch, croyez-moi, ce n'était pas une époque facile. Lisez ce qui se passait à l'époque du déluge, juste avant. Et croyez-moi, ce n'était pas la fête sur la terre. Les gens étaient aussi remplis de méchanceté. Mais ce frère aîné, vous voyez, il apparaît rétrogradé officiellement. Mais est-ce que c'était pas un rétrograde, après vous? Est-ce que pour être rétrograde, il faut partir de l'Église? Non. On peut être dans une Église et être rétrograde. Vous en avez la preuve au travers de cet enseignement où Jésus, n'oubliez pas, Jésus est en train de parler à des pharisiens, des gens qui cherchaient de tout leur cœur à plaire à Dieu. Et pourtant, ils étaient empêtrés dans les formules, dans la religiosité. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et ils étaient là, écrasés. Ce fils, ce frère aîné, il connaissait ni son frère, comme quoi on peut être dans la maison et ne pas connaître ses propres frères. Dans une église, ne pas se connaître. Qu'on ne connaisse pas trop les frangins, c'est pas grave. Mais qu'on n'ait pas compris l'importance de développer la communion avec Dieu, c'est quand même dommage. Vous avez vu comment il réagit? Il reste dehors, il boude. Il y a des gens qui boudent. On le voit chez des enfants, des fois, ils boudent. Jusqu'à ce qu'ils aient leur jouet. Ils boudent. Il y a des chrétiens, ils font pareil. Ils sont grands, ils font pas pareil. C'est pas pour le jouet, mais c'est pour autre chose. Et il boude, il reste dehors, mais non, je n'entrerai pas. Et son père va le voir et essaie de lui expliquer ce qui se passe. Et lui, il est dans un très mauvais état d'esprit. Tout ça, vous savez, ça n'a pas été écrit pour qu'on critique l'un ou qu'on encense l'autre. Tout ça, ça a été écrit pour notre instruction. Parce que nous pouvons, nous aussi, prendre le risque de devenir comme ses frères aînés, qui sont tout le temps en train de râler, de s'irriter, de se mettre en colère. Comment peut-on devenir comme ça? Comme un chrétien, alors que son Père céleste est merveilleux, plein d'amour, de compassion, de tendresse, de patience, etc. Comment un chrétien, dans la maison du Père, peut-il en arriver à être aigre comme ça? Méchant, colérique, parce qu'il n'a pas compris. Il ne comprenait pas, parce que bon, c'est sûr, si vous n'êtes pas né dans une ferme, peut-être que vous avez un peu plus de mal à comprendre cette parabole. Moi, je suis né à la campagne. Dans une ferme, il y a plein de travail. Est-ce que vous le savez? Dans une ferme, il y a du boulot. Un jour, il faut réparer les clôtures. Le lendemain, il faut nettoyer les abreuvoirs. Le lendemain, il faut rentrer le fourrage. Le lendemain, il faut aller apporter le lait à la laiterie, etc. Une ferme, c'est toujours du travail. Et mettez-vous dans la tête du frère aîné qui faisait, oui, voici, je te sers, j'ai jamais transgressé tes ordres, mais il n'a pas compris. Quand le père lui disait, demain, il te faut aller réparer les clôtures parce qu'il y a un danger, il y a des loups là-bas, il ne faudrait pas que certains puissent se rentrer, il faut protéger les brebis. Il allait le faire. Je vous donne un exemple, c'est pas écrit dans la Bible, c'est pas écrit. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais quand même, c'est plausible. Le père qui demandait à son fils d'aller réparer les clôtures, c'était pour qui en fin de compte? C'était pour le père ou c'était pour le fils? C'est pour le fils. L'héritage, il était pour qui? Il est pour le fils. Et voyez, quand on fait les choses pour faire les choses, et quand on ne comprend pas que tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour nous quelque part. Oui ou non? Parce qu'on peut le calculer comme on veut. Mais tout ce que l'on fait de tout son cœur, qui c'est qui aura l'héritage? Ben c'est nous. Oui ou non? Vous me dites, oh, monsieur Gros, ça ne m'intéresse pas. C'est pas vrai. On est tous intéressés par les récompenses. Et lorsque l'on fait quelque chose, on va dans une réunion de prière comme celle qu'on a eue tout à l'heure. On prie de tout son cœur, on le fait pour le Seigneur. Qui c'est les bénéficiaires? Ben c'est nous. Et le fils, le frère aîné, est irrité, il est en colère parce qu'il n'a pas compris l'importance de communiquer avec son père. Et beaucoup de chrétiens se privent de la grâce parce qu'ils n'ont jamais développé une communion avec Dieu. Et tout en faisant les choses pour faire les choses. Je prends un exemple simple. Ça va être vite fait pour les chrétiens. Si vous découvrez l'évangile, vous ne comprendrez pas. Si vous êtes chrétien, vous allez comprendre. Quand vous êtes venu au calvaire, la première fois, que vous vous êtes repenti de vos péchés, que vous avez ouvert vos yeux sur le sang du Seigneur qui a été versé pour vous, que vous avez compris que tout ça c'était pour vous, que vous avez compris cette beauté de la grâce qui vous offrait le pardon, vous avez été bouleversé. Oui ou non? Vous avez demandé pardon et vous avez obtenu le pardon des péchés. Oui ou non? Ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça. Et donc vous avez été bouleversé. Oui ou non? C'est une joie inexprimable. C'est quelque chose de merveilleux. Quand on se convertit, il y a une joie, une paix, quelque chose qui nous inonde. On passe des ténèbres à la lumière. Bon, je le résume. Mais il n'empêche que c'est quelque chose de fort. Oui ou non? Et nous avons découvert la grâce. Les mois ont passé et on est entré dans le royaume de Dieu. Écoutez bien, parce que pour comprendre le frère, il faut comprendre le frère aîné. C'est pas écrit pour qu'on taxe les gens d'un mauvais témoignage. Puis le temps a passé, puis on nous a dit oui, c'est vrai, il y a la grâce de Dieu. Mais tu sais, alors je donne une image un peu forte peut-être. Mais on nous a dit, oui, d'accord, c'est vrai, tout ça, oui, il y a la joie du salut et tout. Mais tu sais, par exemple, il faut toujours prier. Vous allez comprendre. Il faut toujours prier. Ah bon? Il faut toujours prier, c'est écrit où? Ben, c'est écrit là, dans la Bible. Alors on a commencé à faire les choses pour que Dieu nous approuve. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On a commencé à vouloir mériter la grâce de Dieu. Ah bon, il faut toujours prier. Qui c'est qui l'a dit? Ben c'est Jésus. C'est lui qui a dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Prier sans cesse, prier sans cesse. Ben, je vais prier sans cesse. Et c'est devenu un joug. Alors que prier sans cesse, c'est un encouragement à ne pas justement nous relâcher. J'ai ma sœur qui est inconvertie, prier sans cesse, ça veut dire, mais ne te décourage pas, prie jusqu'à sa conversion. Oui, c'est un encouragement à prier jusqu'à ce que la personne se convertisse. Quand Jésus dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher, c'est le même sens, ça veut dire, ne te décourage pas. Persévère jusqu'à la conversion de la personne, parce qu'il y a un combat. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire toujours des efforts et toujours des efforts et toujours des efforts pour avoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est gratuite. Et c'est pour comme cela, alors je le résume parce que le sujet en vérité n'est pas là ce soir, mais c'est pour vous expliquer comment des chrétiens deviennent comme des frères aînés. Parce qu'ils n'ont pas développé la communion avec Dieu. Il n'est pas rétrograde. Mais je peux vous dire que l'état d'esprit dans lequel il est l'état d'esprit de quelqu'un qui est rétrograde. Il n'est pas dans un bon état d'esprit. Le seul qui avait le droit de faire la tête dans cette parabole, c'est le veau gras. Après tout, il n'allait pas être gras. C'est le seul qui avait le droit de faire la tête, puisqu'il s'est fait égorger. Mais après lui, il n'avait pas à faire la tête. Lui, il n'avait que le droit de dire, mais quelle grâce, mon père, je le savais, il l'accueillerait, parce que Dieu pardonne. Bien sûr que le fils prodigue, il a gaspillé le talent. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que nous comprenions bien ce que ça veut dire, ce verset que j'ai pris. Beaucoup de gens l'ont lu, ils l'ont pas compris. Ou alors même, vous voyez, la prière est devenue un fardeau. Il y a quelque temps de ça, il y a un chrétien qui m'appelle dans une église, un chrétien responsable en plus. Il m'appelle et me dit, voilà, le pasteur nous a proposé de faire une chaîne de prière. Voilà, il a proposé, il trouvait que ce serait bien, et voilà. Alors, il nous a donné un mois de réflexion, et le dimanche au culte, il faut se désigner, il faut que chacun se détermine. Voilà, moi je prie de minuit à 1h. À 1h, je réveille M. Grondin, parce que lui, il s'est désigné de 2h à 3h. À 3h moins 2, M. Grondin, il réveille Nicolas, parce que Nicolas, c'est, il me dit, qu'est-ce que tu en penses de ça? J'ai dit, mais c'est un joug. Premièrement, dans la Bible, il n'est pas dit de faire ça. Moi, je dis que quand quelqu'un est spirituel, il prie. Il prie quand il a envie. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin. Et c'est ce qui est arrivé. C'est que dans cette église, la prière est devenue un joug. Et voyez, l'homme, il est tout le temps en train de développer des formules. Notre cœur, il n'est pas fait pour des formules. Notre cœur, il est fait pour la communion avec Dieu. Et c'est important de le comprendre, ça. Et je voudrais que nous comprenions bien que lorsque nous faisons les choses pour les faire, nous nous éloignons de la grâce. D'ailleurs, c'est Paul qui dit aux Galates, vous êtes déchus de la grâce. Il parle à des chrétiens. Vous tous qui cherchiez la justification par la loi. Après, tout ce qui a été donné, ça doit être un encouragement. On voit un texte qu'on pourrait lire, c'est dans Luc au chapitre 13. Gardez le texte de Hébreux 4. Dans Luc chapitre 13, il n'y a pas que là, mais ça vaut la peine de le lire. Parce qu'en plus, dans le texte de Matthieu, nous voyons Jésus qui pleure. C'est quand même fort cette histoire où le Seigneur pleure. Alors le Seigneur n'est pas en train de nous exposer ses émotions. Lisons-le, Luc chapitre 13, verset 34. Regardez bien le danger. N'oubliez pas que Jésus parlait, pour ainsi dire, toujours à des gens religieux. Luc 13, 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois, donc à plusieurs reprises, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vous avez vu? Alors je le répète, il faut bien comprendre. Quand vous connaissez Dieu, ce n'est pas le genre de Seigneur Jésus à exprimer des doléances envers lui-même. Il est en train de nous enseigner combien nous pouvons passer à côté de certaines choses. Et vous ne l'avez pas voulu. J'ai voulu vous bénir, car l'image en plus est assez facile à comprendre, comme une poule qui rassemble ses petits poussins sous ses ailes. Elle n'est pas belle l'image? C'est une image merveilleuse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des poussins sous une mère poule. C'est une image de protection, de chaleur, d'amour, de tout. Et le Seigneur, mais le Seigneur, écoutez-moi bien, il n'est pas en train d'exprimer sa souffrance. Il est en train de nous expliquer comment on peut passer à côté de certaines choses. C'est ce qui est arrivé au frère aîné. C'est mon introduction, donc je ne vais pas allonger, mais c'est pour vous dire comment on peut être dans un mauvais état d'esprit tout en n'étant pas officiellement rétrograde. Et comment des gars comme Enoch, dans un contexte aussi difficile, a choisi, lui, de marcher par la foi. Ce frère aîné, une chose est sûre, il n'est pas dans le repos. La vie avec Dieu, c'est une vie de repos. Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Le frère aîné représente tous les gens religieux qui cherchent à plaire à Dieu par leurs efforts. Et voilà comment on en arrive. Vous voyez, on n'a pas compris. La religion, ça peut changer la conduite des gens. Il y a des gens qui se tournent vers Dieu, ils changent, mais leur cœur ne change pas. Est-ce que vous comprenez? La religion, ça peut changer la conduite. Vous apprenez, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas aller ici, il ne faut pas aller là. Bon, d'accord, vous changez votre conduite, mais il n'y a que la grâce qui peut changer le cœur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça ce que le Seigneur veut nous enseigner dans la parole de Dieu. Alors, je voudrais justement ce soir revenir sur ce verset 16 d'Hébreux chapitre 4. Et on le relit, s'il vous plaît. Vous savez, moi, ces exhortations que je vous adresse sont le fruit de méditation. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Relisons donc ce verset, car qu'est-ce que ce verset? Ce verset fera que nous ne ressemblerons pas au fils prodigue, au frère aîné, ou au vice-prodigue, parce que lui aussi n'est pas dans le bon état non plus, mais nous ressemblerons à Enoch. On le relit, s'il vous plaît. Relisons-le, parce que beaucoup de chrétiens lisent vite, vite, ils ne comprennent pas l'enseignement profond qu'il y a dans un commandement. Hébreux chapitre 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Donc, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on s'approche de Dieu, c'est pas que pour prier, c'est pour obtenir. Il y a des gens qui prient, mais ils reçoivent jamais. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que justement, ils sont dans cet état d'esprit légaliste ou laxiste. Ils sont dans cet état d'esprit d'obtenir l'amour de Dieu par les efforts. Tu vois, il y a tant d'années que je te sers sans avoir transgressé tes ordres et tu m'as jamais offert un chevreau. Vous voyez, on est dans le besoin de mériter la bénédiction. Mais le Père lui dit, mais t'as pas compris? Tout ce qu'il y a, c'est à toi. Si t'avais besoin d'un chevreau, tu aurais pu te le faire cuire. Vous voyez, quand on n'est pas dans la grâce, et c'est pour ça que ce verset, j'ai dit que c'était un commandement, mais en vérité, ce n'est pas un commandement, c'est une invitation. Vous voyez comment on a vite fait de se méprendre. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, un commandement de plus. Mais non, ce n'est pas un commandement, c'est une invitation. Alléluia. Vous avez vu de suite la différence? Vous me suivez? Vous êtes d'accord? Vous voyez la différence? Comment on peut même ne pas voir l'invitation bénie du Seigneur pour obtenir? Il y a déjà, ils prient, ils sont superstitieux déjà. Chez nous, on défend les catholiques, ils récitent des prières, ils récitent le « Vous salue Marie », ils vous récitent le « Notre Père ». Quels hypocrites! Ah oui? Mais vous ne croyez pas que quand on est tombé dans le légalisme, on peut nous aussi prier pour essayer d'obtenir la faveur de Dieu. Je prie plus que Nicolas. Combien tu pries, Nicolas? Tu pries une heure par jour? Ah, il prie une heure. Moi, je prie que 52 minutes. Ah, je vais prier 1h05. Je serai... Non, mais oui, vous allez dire, mais ça ne tient pas debout. Mais est-ce que ça pourrait ne pas arriver de tomber dans un piège pour dire, tiens, c'est ça. La religion, priez le temps que vous avez à prier. Peut-être pour Nicolas, il va prier peut-être une heure. Moi, j'aurais besoin de prier 1h-5. C'est quoi le mieux, 1h ou 1h30? Ben, ça dépend, chacun a besoin de prier. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez comment on est bête, complètement bête. On devait dire, moi, je veux prier le temps que j'ai besoin de prier. Toi, tu as besoin d'un quart d'heure? Eh bien, fais-le, pas d'un quart d'heure, mais fais-le de tout ton cœur. Moi, je suis un homme d'affaires, vous savez, monsieur Gauche, j'ai une grosse entreprise, j'ai 150 ouvriers, j'ai que 10 minutes. Eh bien, que ce soit 10 minutes de qualité. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Quelle invitation! Approchons-nous avec assurance. Mais moi, j'ai honte, je ne suis pas bien. Mais on ne te demande pas si tu es bien. Dieu, lui, il est bien. Dieu, il va bien. C'est pour ça qu'on peut s'approcher avec assurance. Parce que si on s'approchait de Dieu que chaque fois qu'on a de l'assurance, laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ne s'approcheraient pas souvent du Seigneur. Et s'il nous est demandé de nous approcher de Dieu avec assurance, c'est parce que justement nous avons un Père qui nous attend. Bien sûr, dans une parfaite honnêteté. Si ça ne va pas, si je suis en conflit avec quelqu'un, si je me suis disputé avec Nicolas, parce qu'il ne fait pas bien chanter, il va falloir que je le lui explique. Par exemple, bon, un détail, il va falloir quand même que je m'approche. Et Dieu va me dire, mais il te faut demander pardon à Nicolas, ce n'est pas parce qu'il ne chante pas bien qu'il te faut mal lui dire. M'approcher de Dieu, la seule prière que Dieu va peut-être exaucer, c'est « Seigneur, je te demande pardon. » Mais si je m'approche avec assurance, parce que je le connais, vous avez vu le fils aîné? Il ne s'est pas approché du père, il est resté dehors, il a appelé un serviteur, il a dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans la maison? Qu'est-ce qui se passe ?» Alors qu'il aurait pu rentrer, il était chez lui, il aurait pu rentrer et dire « Mais papa, qu'est-ce qui se passe ? » Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la musique, il y a des danses. Qu'est-ce qui se passe? Aucune communion. Quand vous connaissez Dieu, ou quand vous le connaissez de plus en plus, ou de mieux en mieux, vous pouvez vous approcher de lui. Vous pouvez vous approcher avec confiance. Et ça, c'est un problème qu'il faut vraiment régler. Le problème du doute, si vous ne le réglez pas, il vous empoisonnera toute votre vie. Celui qui doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Le doute, il faut le régler. Un des meilleurs moyens de le régler, c'est de comprendre ses invitations. Approchez-vous avec assurance. Seigneur, je sais que toi, tu ne me juges pas. Je viens tel que je suis. Mais c'est ça, il faut. Si je le disais tout à l'heure avec un peu d'humour, mais si je dois demander pardon à quelqu'un, je dois lui demander pardon. Je sais très bien que si je ne demande pas pardon, toutes mes prières ne seront pas exaucées. Oui ou non? Je le sais. Mais que je sois honnête. Vous rappelez cet homme? Cet homme qui s'est approché un jour de Jésus, il s'est approché de Jésus, Jésus lui a parlé, et puis quand il a été au contact de Jésus, il a été intelligent. Il a dit. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez cette honnêteté? C'est ça l'honnêteté. Est-ce qu'il a été béni cet homme? Oui, il a été béni. Et il y a dans le fait de s'approcher de ce Père, plein d'amour, plein de bonté, de sévérité, tout ce que vous voudrez, mais c'est bien tout ça. Cette honnêteté, oui, je crois. Mais viens à mon secours. Seigneur, tu vois, j'ai plein de choses à régler. Éclaire-moi, Seigneur. Peut-être je parlais d'être fâché avec un frère, mais est-ce qu'on peut être fâché avec 10 personnes? Est-ce qu'on peut être fâché avec 10 personnes? Ben oui. Eh bien, je vais écrire aux 10 personnes. Ou je vais téléphoner, ou textoter, ou festuber, je ne sais rien comment vous appelez. Mais je vais le régler. C'est ça, l'invitation. Qu'est-ce que vous voyez dans ce commandement? Dans ce commandement qui n'en est pas un, en vérité, c'est une invitation. Qu'est-ce que vous voyez dans ce commandement? Quand on est intelligent, sérieusement, quand vous voyez ce commandement, vous voyez qu'une chose, c'est que Dieu veut vous bénir. Oui ou non? Sérieusement, vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez pas tous l'air d'accord. Qu'est-ce que vous voyez dans ce commandement? Vous voyez un Dieu qui nous invite pour nous bénir. Oui ou non? Ça ne peut pas être autrement. Alors, le problème du doute, réglez-le. Ne doutez pas, ne doutez pas. Ça ne sert à rien de douter. Si vous doutez, c'est parce que vous n'avez pas développé une véritable communion avec Dieu. Ne doutez pas. Venez tel que vous êtes avec cette profonde honnêteté. Il faut régler le problème du doute. Jésus a dit, mais pourquoi tu doutais? Vous savez, quand il marche sur l'eau, il s'enfonce, il voit la mer, tout ça. Bon, là, en plus, ça se comprend. Mais Jésus lui dit, pourquoi as-tu douté? Le doute, il fait beaucoup de mal aux chrétiens et aux églises. Tout à l'heure, il y a un frère ou une sœur là qui priait pour le témoignage. Mais je peux vous dire que quand les chrétiens doutent, ça nuit beaucoup à l'église. Ça nuit beaucoup au témoignage personnel. Alors que Dieu nous aide. Vous savez, du doute, pour passer au découragement, c'est vite fait. Il n'y a qu'un pas à faire. Hein. Il y a des chrétiens qui aiment le Seigneur et pourtant ils sont toujours découragés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réglé le problème du doute. Et le doute, croyez-moi, ça n'amène pas une bénédiction. Le doute, ça amène le découragement. Et du découragement, on a vite fait de passer à la défaite. Vous voyez comme quoi il ne faut pas s'amuser avec certains problèmes, il faut le régler. Donc, si Dieu, soyons intelligents, beaucoup de gens sont mystiques, je le disais, légalistes ou laxistes, soyons intelligents. Si Dieu nous demande de nous approcher du trône de la grâce, c'est un, qu'il veut nous bénir, je l'ai dit, mais deuxièmement, c'est qu'on peut le faire. Oh, moi je ne sais pas prier, je n'ai pas envie de prier, ce n'est pas pour moi, écoutez-moi bien. Si Dieu nous demande quelque chose, on peut le faire. Ne commencez pas à vous mélanger les pinceaux avec des excuses qui vont vous éloigner de Dieu. Quand Dieu demande quelque chose, on peut toujours le faire. Vous le croyez, mes frères et sœurs? C'est sérieux tout ça. Voilà, j'ai fait mon introduction. Maintenant, il y a trois points. Approchons-nous avec assurance, parce que Dieu nous accueille, pour obtenir... quelle est la première chose que Dieu veut que nous obtenions? Alors, la miséricorde. Voilà la première chose que Dieu veut nous donner. La miséricorde. Beaucoup de gens ont été guéris. Il y a des gens qui sont venus, ils étaient malades, ils n'avaient pas d'emploi, ils étaient dans le deuil, etc. Ils sont venus, ils ont été exaucés. On ne les a plus revus. Ça, ça a toujours existé. Sur 10 lépreux qui sont bénis, il y en a combien qui reviennent? 1. Ça n'a pas changé. La proportion, au siècle des siècles, a été toujours la même. Sur 10 personnes qui sont bénies, il n'y en a qu'un qui revient pour s'occuper du salut de son âme. C'est comme ça. Les gens veulent la bénédiction, mais ils n'obtiennent pas miséricorde. La miséricorde, c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est quelque chose d'important. Les gens, souvent, n'arrivent pas à faire la différence entre la grâce et la miséricorde. La miséricorde, regardez, je vais donner un exemple. Vous vous rappelez un jour, il y avait une foule qui était rassemblée dans une maison, et puis ils ont fait descendre par le toit un paralytique par quatre amis qui l'ont descendu au pied du Seigneur. Et vous vous rappelez la première parole que Jésus a adressée à cet homme? Est-ce que c'est quoi la première parole? Tes péchés sont pardonnés. Pourtant, il venait, cet homme, pour obtenir la guérison. D'accord? Mais la première chose que Jésus va lui dire, c'est, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que ça montre? Ça veut dire qu'avant la guérison, Dieu voulait qu'il obtienne miséricorde, c'est-à-dire le pardon des péchés. La miséricorde, à la différence de la grâce, c'est important parce que les gens disent « ta grâce, ta miséricorde », c'est pas du tout la même chose. La miséricorde, c'est avant la grâce, dans la chronologie. La miséricorde, c'est le pardon des péchés. Ça veut dire quoi? Vous connaissez ce texte? On va le lire, tiens, dans le psaume 103. C'est important. Parce que quand même, on veut faire des progrès, on veut vivre ces choses, on veut ressembler à Enoch. Vous voulez ressembler à Enoch? Oui ou non? Ou au frère aîné? Vous voulez regarder au frère aîné? Si vous voulez regarder au frère aîné, je vous donnerai les conseils qu'il faut, ça sera vite fait. Par contre, ça sera un peu plus compliqué, mais regardez dans le psaume 103, on le voit au verset 8, 9 et 10. C'est ça la miséricorde. Mes frères et sœurs, c'est sérieux ce qu'on partage, c'est tout simple. Mais c'est archi sérieux. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Voilà ce que c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est comme mérite. On mérite quoi? L'enfer. Qu'est-ce qu'on mérite? Le châtiment. Et Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Dieu ne nous punit pas selon nos iniquités. C'est-à-dire que ce qu'on mérite, vraiment, Dieu ne nous le donne pas. Ça, c'est la miséricorde. On mérite l'enfer, et Dieu dit, tes péchés sont pardonnés. Bien sûr, il y a une démarche. Le gars, il s'approche, et bien sûr, il ne s'approche pas que pour la guérison. En même temps, il s'approche aussi pour le pardon de ses péchés. Parce que Jésus ne lui aurait pas dit, tes péchés sont pardonnés, si cet homme ne s'approchait pas pour le pardon de ses péchés. Et les pharisiens qui sont en colère, mais pour qui il se prend? Dieu seul peut pardonner les péchés. Ils n'ont pas compris que Jésus était Dieu. Ils n'ont pas compris que Jésus était le Messie, loin de l'Éternel. Et là, ils sont en colère, mais pour qui il se prend? Et Jésus va dire, mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est quoi le plus facile, pardonner les péchés ou guérir un paralytique? C'est quoi le plus difficile? C'est pardonner pour Jésus, pas pour nous. Parce que pour pardonner, il fallait que Jésus meure sur le bois de la croix. Mais le plus important, c'est pas la guérison, bien sûr qu'il la faut. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le plus important, c'est la miséricorde. Afin d'obtenir, et on prie pas en espérant que peut-être, oui, non, je m'approche de Dieu et j'obtiens miséricorde. Il ne me traitera pas selon ma misère. Il ne me traitera pas selon mon péché. Il ne me traitera pas selon mes iniquités. Si je ne demande pas pardon, j'irai en enfer. Si je ne demande pas pardon, je partirai loin de Dieu. Mais si je m'approche du trône de la grâce sur lequel Jésus-Christ est assis en ce moment, j'obtiendrai la miséricorde. La première chose dont j'ai besoin, c'est la miséricorde. Alléluia. Il ne me traite pas selon mon péché. Après, c'est quoi la deuxième chose? Vous ne m'aidez pas beaucoup, hein, dis donc. Donc, la miséricorde, et puis après, d'obtenir la grâce. Parce que c'est bien d'obtenir la miséricorde. C'est bien d'obtenir le pardon de ses péchés. Mais il faut s'y installer dans la miséricorde. Il faut s'installer dans la miséricorde. Comment? En restant dans la grâce de Dieu. Beaucoup de gens, ils vont à l'église, ils prient, « Oh, j'étais malade, Dieu m'a guéri. » Alors, tu écoutes les gens, ils témoignent, tu te dis, il y en a pour 15 ans. Le gars, 15 heures après, il a rétrogradé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi? Parce qu'il a obtenu la guérison, mais comme il n'a pas obtenu la miséricorde, il n'a pas compris qu'après, il devait s'installer dans la grâce. Et je nous pose la question, est-ce que nous sommes là, juste pour avoir une bénédiction, parce qu'en plus j'ai appris, j'ai vu, j'ai été malade plusieurs fois, Dieu m'a guéri plusieurs fois, alors Seigneur, je viens pour que tu me guérisses. Non, 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 non. Seigneur, j'ai besoin de m'installer dans la grâce. Je veux y rester. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils viennent, ils repartent. Il y a plein de gens comme ça. Sur 10 gens qu'on baptise, même ici, partout. Il y a des gens, une fois qu'ils sont bénis, ils s'éloignent de la miséricorde, ils s'éloignent de la grâce. Que c'est dommage. Que c'est dommage de s'éloigner de la miséricorde de Dieu. Il ne faut pas s'approcher de Dieu pour s'en éloigner 5 minutes après. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et vous ne l'avez pas voulu. Encore un texte, voyez, où Dieu montre que les gens passent à côté de vraiment la grande bénédiction avec un B majuscule. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'y installent pas. Et cette invitation, voyez ce verset, je ne sais pas si vous l'avez lu combien de fois. Combien de fois vous l'aviez lu ce verset? Allez, aidez-moi. David. Bon, David, il y a 3 mois qu'il est baptisé. Quand on a été baptisé 3 fois, combien il a lu? 1 fois? 2 fois? Hein? Combien de fois? Jonathan, combien de fois vous l'avez lu? Pas autant que moi. Oui, oui. Mais non, je le dis sérieusement. Combien de fois on a lu ce verset? Soyons honnêtes, mais ce n'est pas une question piège. Madame Pen, combien de fois vous l'avez lu? 100 fois? 200 fois? Plus. Vous voyez comment on devrait être quand même. S'arrêter parfois. Vous voyez, on l'a chanté. Si je me tais, non, c'est pas si je me tais qu'on a chanté, c'était quoi? Parle-moi. Hein? Je veux m'installer dans la miséricorde. Je veux m'installer dans la grâce de Dieu. Et Dieu le veut. Je peux vous dire que Dieu est d'accord. Il y a des fois, il me dit, c'est là que vous voyez que les gens, ils sont dans la légèreté. Je prie, ça ne sert à rien. Mais mes frères et sœurs, installez-vous dans cette grâce. Pas le temps d'une réunion où on est au bénéfice de la communion, de la paix, de la communion fraternelle, de la parole de Dieu, qui est un immense bienfait, bien sûr. Mes frères et sœurs, ces choses, elles sont sérieuses. Le frère aîné, il l'a payé cher. De ne pas développer cette grâce et cette miséricorde. On le paye cher. Les pharisiens, ils l'ont payé cher. Et pourtant, ils faisaient tout pour Dieu. Saul de Tarse, pourquoi il le faisait? Ce qu'il faisait, il le faisait pour qui? Pour Dieu. Il se battait contre celui qu'il aimait. Les pharisiens étaient embourbés dans cette religiosité. Il faut faire pour faire, et je prierai plus que lui, et je prierai davantage, je mériterai l'amour de Dieu. Non, Dieu vous aime, que vous priez ou que vous ne priez pas, Dieu il vous aime. Bien sûr que quelqu'un qui aime Dieu, il va développer une communion avec Dieu, c'est imparable. Et la troisième bénédiction, pour être secouru. Comment vous avez dans votre Bible? Pour être secouru, mais c'est pas que ça. Pour être secouru, eh bien, aidez-moi. Pour être secouru au moment opportun. ou pour être secouru dans nos besoins. Vous savez, pour être secouru. Voilà. Au moment opportun, Dieu a un temps pour secourir ses enfants. Bien sûr que nous, ça ne cadre pas toujours avec notre temps à nous. Vous êtes d'accord? Nous, on aimerait que ça se passe de suite. Oui ou non? Nous, on aimerait que quand on prie, Dieu exauce de suite. Ça me vient, ça m'irait très bien. Mais Dieu nous secourt par rapport à son plan. Il faut le comprendre, ça, mes frères et sœurs. Dieu, il sait quand est-ce qu'il doit nous secourir. Il le sait. Dieu sait toutes choses. Il sait où vous en êtes. Et si Dieu attend avant d'intervenir, c'est peut-être la meilleure des choses pour nous. Parce que c'est quand nous attendons, quand on est intelligent, que nous apprenons le mieux. C'est là qu'on apprend. Si on est intelligent, et si on dit, mais Seigneur, tu sais ce que tu fais. Il y a une sœur qui m'a téléphoné l'autre jour de notre mouvement. Elle me dit, j'aimerais savoir ce que vous en pensiez. J'ai mon neveu qui voulait rentrer dans le ministère et les responsables lui ont dit non. Il a rétrogradé. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, il a vraiment tout compris. Il aurait dû dire, bon, mais Seigneur, tu vois, moi je veux te servir. Si les hommes ne sont pas encore prêts, moi j'attends. Dans l'obéissance. Vous voyez, c'est une légèreté. Le gars, il avait vraiment, vraiment rien compris. Parce que si Dieu vous veut un jour sur une estrade, laissez-moi vous dire qu'il vous y mettra. Croyez-moi. Dieu sait quand est-ce qu'il doit intervenir. Approchez-vous afin d'être secouru au moment opportun, dans le besoin. Il y a des gens qui ne veulent pas attendre. C'est pour ça qu'ils rétrogradent. Vous rappelez l'histoire de Joseph? Vous rappelez Joseph? Joseph le patriarche, pas Joseph le mari de Marie. Est-ce qu'il a été secouru? Est-ce qu'il a été secouru de suite? Il a été secouru au moment convenable. On peut le lire dans le psaume 105. C'est important, mes frères et sœurs, parce que un verset comme ça, c'est un verset merveilleux qu'on devrait mémoriser. Vous voyez, certains, vous auriez dû prendre des notes et dire, tiens, tout ça, c'est important, je vais le mémoriser. Vous allez le serrer dans votre cœur et je peux vous dire que ce verset, vous ne l'oublierez jamais. Mais certains, vous l'aurez oublié au bout de la rue parce que c'est Radio Nostalgie qui va prendre le relais. Et moi, ça ne me fait pas rire parce que je sais que c'est vrai. Et combien c'est dommage. Et le diable, il se frotte les mains. Psaume 105, verset 16. Regardez, il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Dieu l'a secouru au moment opportun. Quand c'était le moment prévu par Dieu? Mais si vous avez lu la Genèse et l'histoire de Joseph, vous avez quand même lu aussi que Dieu était toujours avec Joseph, même dans la prison. Est-ce que c'est écrit « Dieu était avec lui » ? Est-ce que c'est écrit ? Oui. Dieu était avec Joseph. Ça veut dire que Dieu secourait Joseph. Mais la délivrance est venue au moment opportun. Joseph avait obtenu miséricorde. Joseph avait s'était installé dans cette miséricorde malgré la prison, malgré l'épreuve, et au moment opportun, Jésus est intervenu. Approchons-nous avec assurance. Pensez pas à vous, pensez au Seigneur. Le fils aîné, il aurait pu courir dans la maison et dire « Papa, papa, qu'est-ce qui se passe ?» S'il avait connu son père, il savait très bien qu'il ne faisait pas n'importe quoi son père. Oui ou non? Et il aurait pu se réjouir et dire « Mais c'est vrai, quand je répare les clôtures, ça protégera les agneaux et on aura encore plus de sous. » Voilà ce qui se passe quand on a une mentalité d'esclave à la place d'avoir une mentalité de fils. Un chrétien qui s'approche du trône de la grâce, il obtiendra la miséricorde, la grâce et le secours. Vous le croyez ou est-ce que Dieu nous aurait menti? que Dieu, de temps en temps, exagérerait? Ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment vous le croyez? Mes frères et sœurs, vous savez, voyez, je l'ai fait exprès tout à l'heure, de dire on va lire un commandement. Parce que beaucoup de commandements sont des véritables bénédictions. Alléluia. Mes frères et sœurs, tout à l'heure, peut-être que vous aurez besoin de ce moment. Ben, je vais m'approcher du trône de la grâce. Merci pour la réunion. Moi, je voyais, quand je vous conseille de prendre des notes, c'est pour vous aider à mémoriser les choses. Parce que je peux vous dire que si vous prenez même que 20 notes de la petite prédication, je peux vous dire que ces choses-là, elles seront gravées dans votre cœur. Et vous ne les oublierez pas. Et faisons en sorte que le diable n'enlève pas la semence une fois que nous sommes au bout de la rue. Et quand j'entends des gens rire, quand je leur dis qu'au bout de la rue, ils sont déjà en train d'écouter la radio, moi je trouve que c'est déplorable. Parce qu'on passe à côté. Et vous ne l'avez pas voulu. Et Jésus nous montre vraiment qu'on peut passer à côté de la bénédiction. Et moi, je n'ai pas envie d'y passer à côté. Parce qu'il y a la grâce, la miséricorde et le secours à profusion. Alléluia. On va demander au Seigneur Jésus qui nous aide. Qui nous aide vraiment à vivre ces choses. Car croyez-moi, elles n'ont pas été écrites pour autre chose que pour notre instruction bénie. Notre Père, notre Dieu, nous le croyons vraiment que tout ce qui est écrit l'est pour notre instruction, afin que nous obtenions, comme Enoch, la grâce de partir avec toi. Lorsque tu reviendras nous chercher, que nous ayons rendu ce témoignage glorieux de cette miséricorde, de cette grâce, de ce secours disponible partout, tout le temps. Oui, parce que tu es un grand Dieu, et nous ne voulons pas ressembler à ce frère aîné qui était dans l'amertume. Non, au contraire, Seigneur, nous voulons ressembler à Enoch qui a marché avec toi jusqu'à son enlèvement. Garde-nous, Seigneur, garde-nous intelligents, donne-nous de la sagesse. Donne-nous de l'intelligence pour comprendre toutes les invitations de ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.